Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel notre Dieu, nous vivons dans tant de bruit, dans tant d'inquiétudes. Nous n'entendons pas toujours ta parole quand elle passe à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Alors nous voici pour que se rejoignent en nous, parmi nous, par ton esprit, cette parole, ta présence profonde et ton dynamisme créateur qui travaille nos vies, nos personnes, nos cœurs. Amen. Ainsi que je l'avais annoncé dimanche dernier, les quatre cultes du mois de juillet auront un thème commun, celui des songes et visions. Et nous commencerons donc ce matin avec Jacob. Le songe de Jacob, tel est le titre souvent donné à ce passage du livre de la Genèse, au chapitre 28, les versets 10 à 22, le texte que vous avez sur les feuilles de culte. Jacob partit de Bersabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la tête et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. L'Éternel se tenait au-dessus de lui. Il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. » Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit « Vraiment, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Beth-El, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Mais alors, peut-être que si les anges montent et descendent sur l'escalier, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ailes. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions à la lecture d'un texte aussi ample et aussi dense que celui-ci. Toutes sortes de questions. Bon, la question des ailes des anges n'est pas traitée, à ma connaissance, par les commentaires de cet épisode de l'histoire de Jacob, le troisième patriarche du peuple d'Israël, auquel il a donné son nom après l'avoir lui-même reçu. D'autres ont répondu à cette question des ailes des anges. Par exemple, Marc Chagall. Il a ailé les anges au point qu'ils ne sont même pas vraiment posés sur l'échelle que le peintre a représentée, mais ils voltigent à côté. Anges ou messagers d'ailleurs. Les messagers de Dieu sont appelés des anges, qu'ils soient ailés ou non, et même s'ils sont humains. Et puis, c'est une échelle ou un escalier ? C'est un escalier. Mais de ces escaliers qui tiennent de la large et longue rampe taillée de marches, qui servait à monter au sommet des ziggourats, ces temples mésopotamiens, au sommet desquels la divinité consentait à rencontrer le roi, s'élevant vers elle au moyen des degrés de l'escalier du temple. Une échelle ne serait pas vraiment assez solennelle pour une procession de messagers divins montant et descendant, donc se croisant, avec certainement infiniment de dignité, rien qui soit permis par une simple échelle. La mise en scène est impressionnante. À la mesure de ce qui s'y révèle, une voie de communication entre ciel et terre, la porte du ciel s'ouvrant pour une angélophanie et une théophanie, manifestation d'anges et de Dieu. C'est le premier rêve raconté dans la Torah. Un rêve extraordinaire, ce qui est souvent le cas des rêves, et en particulier des rêves porteurs de visions et de révélations. Alors il faut quand même dire quelques mots du rêveur. Celui qui dort. Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, le préféré de sa mère, alors que son frère est plus proche de son père, son frère aîné, Ésaü. Les histoires de frères sont souvent des histoires compliquées, les histoires de sœurs aussi. Jumeaux, Jacob et Ésaü se heurtaient déjà dans le ventre de leur mère, nous dit le livre de la Genèse. Jacob est né derrière son frère, en lui tenant le talon, d'où son nom, Jacob, il talonne. Plus tard, Jacob a profité d'une faiblesse de son frère épuisé et affamé pour lui échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ésaü n'a peut-être pas été très vigilant cette fois-là, mais l'épisode n'est quand même pas à la gloire de Jacob. Et puis ce dernier, se laissant ensuite influencé par sa mère pour priver Ésaü de la dernière bénédiction paternelle due à l'aîné, se fait passer pour Ésaü auprès d'Isaac, devenu aveugle. Et Jacob reçoit la bénédiction qui devait revenir à son frère. Alors lorsqu'Ésaü s'aperçoit de la supercherie, il est à la fois en proie à une grande tristesse et aussi à une grande colère. Aussi Rebecca envoie-t-elle son fils préféré se mettre à l'abri au loin chez son oncle Laban à Haran. Jacob commence alors le premier de ses voyages. Il voyagera beaucoup, à plusieurs reprises, vers la maison de son oncle, et puis des années plus tard, avec ses femmes, Léa et Rachel, les deux filles de Laban, ses enfants et ses troupeaux, loin de la maison de son oncle et beau-père, vers son frère Ésaü. Et c'est sur ce chemin que Jacob, au gré du Yabok, luttera toute la nuit. Une autre nuit. Contre un homme est-il écrit. Mais peut-être est-ce un ange ? Peut-être Dieu lui-même ? Peut-être le double de Jacob ? Vainqueur de cette lutte, Jacob sera béni par son adversaire qui lui donnera son nouveau nom, Israël. Et réconcilié avec son frère, Jacob s'en séparera cependant, repartant s'installer au pays de Canaan avant d'immigrer en Égypte, où son fils Joseph, devenu ministre du Pharaon, réunira toute sa famille. Et c'est là, en Égypte, que Jacob mourra, mais son corps sera ramené en Canaan, dans le champ de Macpéla, là où Sarah, Abraham et son frère Isaac avaient été précédemment ensevelis. C'est donc sur le chemin de Haran, vers la maison de son oncle, que Jacob se couche en ce lieu et s'endort, la tête sur une pierre. Ce n'est pas un oreiller très confortable, mais un chemin de fuyard, un chemin de fuite, n'est pas un chemin confortable. Les ruses de Jacob, au détriment de son frère, à l'instigation de sa mère, en font un personnage mitigé. Sûrement pas un héros. Il est un frère qui n'a pas su être le frère de son frère. Un fils qui a trompé son père. Alors après Abraham, l'ami de Dieu, après Isaac, ligoté par son père et sauvé par l'Éternel, Jacob fait plutôt pâle figure. Ou du moins, une figure pétrie de contradictions, oscillant entre ruse et courage, jalousie et droiture, entre installation et départ. Une figure dans un entre-deux, une figure de passage, mais certainement passe-t-il ainsi tout près de nous, et peut-être même, certainement, en chacun de nous, qui ne sommes pas non plus des héros ou des anges. Alors Jacob dort, Jacob rêve. Un escalier dont la tête, le sommet, le commencement touchent le ciel et les messagers qui montent et qui descendent. La vision de Jacob dans le rêve montre cette communication entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. La séparation n'empêche pas le lien, la relation. Tous ces messagers qui montent et descendent sont donc des porteurs de messages, des passeurs d'appels, d'envois, de promesses, de lucidité. Et les récits de la Genèse et d'autres textes de la Bible hébraïque témoignent du Dieu qui parle, qui communique, comme il témoigne de ce que cette parole divine tient le monde et l'univers comme monde et univers dans lequel l'humain peut vivre. Et cela s'appelle la création. Ce témoignage est particulièrement repris dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Une parole qui se fait chair en Jésus de Nazareth, le Christ. Celui qui, s'adressant à Nathanaël, venu vers lui sur la parole de son ami Philippe, dit à Nathanaël, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il n'y a plus d'escalier, mais au travers de messagers, grâce à des messagers, une circulation de la parole, manière de dire la puissance de vie créatrice et recréatrice, celle qui tient le monde et l'univers comme lieu où il est possible de vivre, vivre de vie vivante, parce qu'alors l'absurde, le chaos, le non-sens, l'angoisse, même s'ils ne sont pas supprimés, ne règnent pas. D'ailleurs, l'Éternel se tient auprès de Jacob et lui parle. Pas un reproche, mais une promesse. Pas une condamnation, mais l'annonce d'une bénédiction, d'une source de bénédiction. Le don de la terre, la descendance aussi nombreuse que la poussière, les clans, les familles de la terre qui se bénissent à travers Jacob et sa descendance. C'est la promesse faite à Abraham qui est ainsi reprise. pour Jacob, assorti de l'engagement de l'Éternel, « Je suis avec toi ». Littéralement en hébreu, « Moi avec toi ». L'avec est déployé dans une bienveillance déclinée en un « Je te garderai, je te ferai revenir, je ne t'abandonnerai pas ». L'avec associe, allie Dieu à Jacob et à sa descendance, mais ce n'est pas au détriment d'Ésaü ni de personne, de même que ce n'est pas au seul bénéfice de Jacob, mais à celui de toutes les familles de la terre. La puissance de vie n'exclut pas, elle ne trie pas, et cette inclusivité ne s'oppose ni à une vocation personnelle comme celle de Jacob, celle de chacun de nous, ni à la constitution d'ensemble de personnes, des disciples, des églises, mais cette inclusivité précède chaque réponse singulière, chaque confession de foi, chaque dogme, et elle demeure inclusivité contre toute prétention à la vérité ou à l'ultime d'une réponse singulière, d'une confession de foi ou d'un dogme. Tous les clans, toutes les familles de la terre, toutes les nations pour l'évangéliste Matthieu, et puis la femme syrophénicienne et le centurion romain et l'eunuque éthiopien, figures qui scintillent dans les récits évangéliques et celui du livre des Actes comme autant de signes d'accueil et de joie. Moi, avec toi, je te garderai et je te ferai revenir. Jacob n'en attendait certainement pas tant, lui le rusé voleur de la bénédiction paternelle, le frère qui fuit la colère de son frère. Voici que c'est l'Éternel qui vient à lui, sans lui tenir rigueur de son comportement passé. L'Éternel vient à lui même en plein dans les conséquences de son comportement si peu fraternel. Et Jacob n'a pas à grimper au ciel au prix d'efforts plus ou moins importants, plus ou moins réguliers. Il n'a pas à grimper au ciel, lui qui n'est pas un ange. Il n'a pas à se justifier, ni même à s'accuser de quoi que ce soit. La vision des anges montant et descendant lui fait voir la bienveillance divine envers lui. Et la parole qui lui est adressée, c'est une parole de grâce, c'est-à-dire une parole de reconnaissance, c'est-à-dire aussi une parole de reconnaissance et de confiance. Et cette grâce à l'œuvre en l'humain et pour lui, maintenant nous l'appelons Christ, celui qui annonçait pour tous cette vision des anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Malgré la ruse, malgré la fuite, l'ignorance de ce qui se passera chez Laban, la grâce est posée en Jacob, dans l'espace et le temps d'un rêve, dans la passivité du sommeil. Il n'y est pour rien, il n'était même pas en train de prier. Promesses et proximités divines ne sont pas des privilèges. Elles ne récompensent rien, elles ne compensent rien non plus. La grâce, c'est l'immérité absolue. Et c'est en cela qu'elle est profondément, véritablement, ouverture d'avenir et don de sens. Malgré ce qui poursuit celles et ceux qui fuient, colère et haine, ou peur et culpabilité, malgré la réalité incertaine et agitée, malgré les forces du destin et de la fatalité, malgré l'angoisse de la finitude et de la mort, l'existence de Jacob n'est pas déterminée par ce qu'il a fait ou pas. Elle tient à ce qui lui arrive dans le rêve, par la vision et la parole. L'essentiel de nos existences ne dépend pas de ce que nous faisons ou pas, mais de ce que nous recevons. Et cela est évangile, bonne nouvelle. D'une certaine manière, le rêve de Jacob lui permet de sortir de lui-même. Au-delà du Jacob rusé, aimé de sa mère, préféré de sa mère, voleur de la bénédiction de son père, au-delà du frère fuyant son frère, le rêve lui permet de sortir de lui-même pour se trouver, se retrouver autrement. Par le rêve, la vision, la parole, Jacob est décalé de sa seule histoire de fils et de frère. Il commence à devenir Jacob, bénéficiaire de la grâce imméritée et d'une promesse qui relève le désir de vivre. Alors cela ne le transforme pas en ange. Cela ne transforme personne en ange. Mais à son réveil, Jacob reconnaît ce qui lui est arrivé dans l'après-coup. Mais c'est souvent dans l'après-coup que nous reconnaissons la trace, seulement la trace. Mais c'est la trace de Dieu et cela suffit pour vivre et pour croire. Jacob interprète son rêve et ce qui lui est arrivé selon ses croyances, et cependant, il y a un peu plus que ses croyances. Vraiment, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. Il est la porte du ciel et la maison de Dieu. La crainte se mêle à l'émerveillement. Malgré la vision, la parole d'alliance, la promesse, bien sûr, ce n'est pas tant le lieu qui importe que l'humain en qui est déposée la grâce, l'humain vivifié et encouragé, quel que soit le lieu où il se trouve, le lieu où il est trouvé par la grâce, quel que soit le lieu où la parole de création fait retentir en lui l'acceptation inconditionnelle. Il n'y a plus de lieu sacré, de lieu réservé, ni de temps sacré ou réservé. En Jésus le Christ, tous les rideaux de tous les temples ont été déchirés. Et c'était déjà le sens de l'annonce faite à Nathanaël. Vous verrez le ciel ouvert. Jacob, lui, dresse la pierre sur laquelle il avait posé sa tête pour dormir. Il en fait une pierre levée, y versant de l'huile en offrande. Et cette pierre est un signe pour lui et pour d'autres. Elle n'assigne pas Dieu à résidence à cet endroit dont Jacob change le nom, un nom qui lui aussi est signe, Beth-El, maison de Dieu. Car c'est là que lui a été accueilli, lui l'homme en fuite a été recueilli. Jacob commence là un apprentissage qui durera toute sa vie. L'apprentissage de l'humanité, l'apprentissage de Dieu en relation avec l'humain. Tout n'est pas accompli cette nuit-là, une fois pour toutes. Mais à personne il n'est demandé de tout comprendre, de tout savoir et de tout maîtriser, puisqu'il s'agit de recevoir. En cela, par cet apprentissage qui commence, Jacob est proche de tous et toutes. Les épreuves ne lui seront pas épargnées et parfois très cruelles. Mais un jour, après une autre nuit particulière, Jacob sera capable de traverser vers son frère Ésaü pour demander la réconciliation. La trace laissée par la grâce en nos vies, c'est la source d'un élan, d'un courage de vivre et d'être. Moi, avec toi. Cette nuit-là, Jacob a fait l'expérience du croisement de la verticale divine et de l'horizontale terrestre, de la transcendance et de l'immanence, du singulier de son existence avec l'universel, toutes les familles de la terre, l'épreuve du croisement de la grâce et de l'épreuve, de la passivité du sommeil et de l'ouverture de l'avenir. Et lorsque nous faisons une telle expérience, de quelque manière que ce soit, lorsque retentit en nous l'appel à la vie bonne, ou la déclaration de grâce, l'acquiescement inconditionnel, lorsque nous en reconnaissons la trace après coup, et même avec des tensions, des questions et des doutes, c'est un encouragement qui survient. Un encouragement à être présent au monde, car nous recevons de la confiance de Dieu en nous, la confiance d'être et de devenir. Ainsi Jacob, qui n'a pas tout compris, fait un vœu pétri de doutes, enchaînant les « si, alors ». Si Dieu me garde, s'il me donne à manger, s'il me donne de quoi me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Un marchandage qui n'a rien d'étonnant. Nous baignons littéralement dans cet esprit marchand dont il est bien difficile de se débarrasser complètement, et cela ne se fait pas d'un coup. Mais surtout, même l'humain réveillé et relevé peut encore douter. Jacob n'est pas au bout de ses peines, mais il n'est pas réductible à ses peines, ni à ses ruses, ni à ses hésitations. Jacob est l'homme pour qui la porte du ciel s'est ouverte. Et chers amis, il en est ainsi pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.